Déjà, je voudrais rappeler que l'alcool est consommé avec modération. Une règle que tout le monde respecte, évidemment.
Bonsoir, bonsoir, bonsoir.
La musique est incroyable, ça me fait pousser un tabarnak, là.
Ils sont chauds, ils sont bons.
Salut à tous, salut à toutes, il est 21h, on commence l'émission à l'heure déjà, c'est fantastique, il fait beau, il fait chaud sur le Mans. Vous êtes sur Radio Alpa, c'est la Happy Hour, avec à mes côtés Alexandre et Andreas, bonsoir à tous les deux.
Bonsoir.
Quelle ambiance dans ce studio, Benjamin en face de moi, la technique.
Bonsoir.
Alors là, voilà, là on est de bonne humeur, hein, parce qu'en plus, voilà, je l'ai dit, il fait beau et vraiment, quel bonheur. Alors,
quel bonheur incroyable.
Ouais, il fait trop chaud au studio presque.
Ah ouais, là,
non, mais là on est tous en t-shirt.
Ah ouais,
là c'est tacos pour tout le monde. Là,
j'ai vu Benjamin, il était à deux doigts de se foutre torse nu. Attention quand même. Hein. Bon, heureusement qu'on n'est pas. Heureusement qu'on n'est pas à la télé.
Mais non.
Attention les coups de soleil quand même.
Je vais avoir encore plus chaud là. Bon. Allez, sans plus tarder, nous allons te laisser la parole, mon cher Andreas.
On commence tout de suite là.
Ah, mais avec grand plaisir.
Allez, ce soir c'est émission un petit peu spéciale.
Oui, d'accord.
Ouais, on va faire comme ça. Bon, c'est pas plus spécial que ça, mais bon.
Est-ce que chaque émission est pas un petit peu une émission spéciale?
Ouais, ça. C'est un peu ce que j'ai dit dans ma conclusion, qu'à chaque fois je trouvais que tout était bien. Bon, je spoil ma conclusion, pourquoi je dis ça, moi?
Arrête de spoiler, commence.
Bon, allez, jingle, ça serait bien, hein, je pense.
C'est parti.
T'es nord? Bah, non, à l'ouest.
Bonsoir à tous et bienvenue dans Ténor, non plutôt à l'ouest, la chronique qui vous remet dans la bonne direction de la compréhension de l'opéra. Alors Alexandre, Mathieu et aussi Benji, je sais pas si je suis un peu spoil, mais si je vous dis grand cœur, latin, fortune, est-ce que vous avez une idée de l'opéra dont je vais parler ce soir?
Alors je vais me taire parce que j'ai lu le conducteur il y a une demi-heure. Il y a une demi-heure, oui.
Voilà.
Donc je suis la langue du chat.
Voilà, cet homme fait bien son travail d'animateur, il regarde le conducteur, bravo.
Bah oui,
on prend l'expérience.
Très bon point. Moi je te dirais
Je te dis fortune.
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 En ce moment je suis en train de regarder One Piece, donc je pense pas que ça soit ça, le One Piece dans le monde romain.
En vrai ça pourrait passer dans One Piece. Moi je verrais bien cette œuvre.
Ah
dans One
ouais.
Piece.
Ouais.
Ça marche pas. Hein.
Ça peut être une bonne idée.
J'aime bien, on a avec Mathieu, on va dire ouais pourquoi pas, putain on a mais de quoi on parle,
de quoi
qui
on parle,
genre tout le monde personne ne comprend.
Allez crache le morceau mon cher Andreas.
Ce soir ce serait Carmina Burana.
Magnifique.
Et d'ailleurs, vous êtes tombé dans le panneau. Ce Carmina Burana, c'est pas un opéra, c'est une cantate. Hein.
Bon, du coup, alors,
qu'est-ce qu'une cantate?
Nous avons besoin de renseignements supplémentaires, mon
en
cher.
En gros, une cantate, c'est un recueil de plein de musique, de chants.
D'accord.
Voilà, j'aurais dû regarder la définition un peu plus exacte parce que tu me prends un peu.
Non. Est-ce que le terme moderne ne serait-il pas compilation?
Ah,
ou est-ce que c'est différent justement d'une compilation?
Bonne question. Je pense que petite pause musicale, je regarderai, je dirai ça.
Ok, on va en savoir plus.
Est-ce que c'est pas un album du Moyen-Âge?
Alors le Moyen-Âge peut-être pas quand même, hein, parce que c'est quand même ça a été écrit pendant la période
à l'époque pour eux le 33 tours
1900-2000. Ah bon.
D'accord.
Bon alors du coup revenons. Donc, du coup c'est un peu différent d'habitude ce soir parce que je vais parler d'un scénario de. Je vais pas vous parler du scénario de la cantate car en fait on en a pas vraiment. On parle bien de choses, mais c'est assez délire, enfin, vous verrez. Alors, du coup, je vais vous parler de... Attention, tournage passe, let's go.
DJ Feuille. Hein.
L'histoire.
DJ Feuille, il est là.
Toujours, tout. Hey, le mec, ce soir.
Ah. Magnifique.
De l'histoire de l'œuvre, du compositeur, je vais vous dire quelques petites anecdotes sur Carmina Burana.
Avec grand plaisir.
Alors, est-ce que vous connaissez Karl Orff?
Alors, ça me dit quelque chose, pareil, vraiment, ma culture de l'opéra est vraiment très très peu fournie.
Culture classique.
Ouais, mais ça, c'est vrai que c'est pas. Ça a jamais été vraiment ma tasse de thé, à mon grand regret, hein, moi qui suis passionné de musique. Mais ouais. Alors, je serais ravi d'entendre ça, sa biographie.
Est-ce que tu peux juste redire le nom?
Karl Orff.
À tes souhaits, est-ce que tu peux redire le nom?
Karl Orff.
Ouais.
Attention, il y a beaucoup d'allemand, il y a du latin, il y a plein de trucs sympas à dire.
Écoute, c'est à ton tour de nous montrer tes talents. L'autre fois c'était l'italien, et là on attend de voir tes compétences en allemand quoi.
Oula, l'allemand c'est pas terrible. Hein. Je vous spoil, Benji, t'as un peu entendu, l'allemand c'est pas terrible.
Ah, c'était incroyable.
Le latin c'est pire.
Moi je n'ai qu'une question, c'est à quelle heure le russe?
Ah.
À quelle heure tu vas
faire? Oh oui, mais bien sûr, il y a des.
Alors, vous savez, j'ai déjà chanté en russe, c'était un enfer.
Oui, ben non, évidemment.
Yo, je bejo, je bejo.
Pas bon, c'est bref. Pas du tout ma langue.
Et bien, du coup, je vais vous éclairer sur Karl Orff parce que ça vous parle pas trop. Alors, du coup, Karl Orff, il est né à Munich le 10 juillet 1895, issu d'une famille de tradition militaire. Et donc, ses parents sont cependant tous les deux de bons pianistes.
D'accord.
Et sa mère remarque, son entourage remarque rapidement en fait les dons de son fils pour la musique. Donc il initie au piano, au violoncelle, puis à l'orgue. Alors, La jeune Karl Orff ne rencontre pas de difficultés dans ses études musicales, mais il supporte pas l'académiste de certains de ses professeurs. Il préfère plutôt improviser pour maîtriser le piano plutôt que jouer ses pièces, de jouer des pièces de maître passé. Alors en 1909, il assiste à une représentation de Fliegende Holländer, soit le Hollandais volant de Richard Wagner.
D'accord, oh oui, Hollandais volant, oui, Richard oui. Wagner, ça c'est bon.
Let's go.
Que je puisse le caser au moins.
Et du coup, il s'intéresse après beaucoup à l'opéra. Donc en 1912, il entre à l'Académie de musique de Munich. Et là encore, il ne s'entend pas toujours avec ses professeurs. Alors néanmoins, ses années d'études seront fécondes. Il compose son propre opéra, Gezai. Si je pense correctement, cette fois c'est du japonais. C'est une pièce japonaise.
Ok.
Orff, il est fortement influencé aussi par Claude Debussy et Richard Strauss.
Ah oui, ça c'est deux très bons compositeurs.
Bon, il y avait un troisième compositeur qui a été cité, mais que personne connaissait, que même moi je ne connaissais pas. Je me suis dit, bon, désolé, mais on fera une chronique sur toi.
Déjà, Karl Orff, on était là. Ouais.
Alors, ouais, du coup, ouais. En 1914, il prend encore des leçons d'interprétation avec Hermann Zickler.
Mm-hmm.
Normalement, ça se dit comme ça.
Ah, mais non,
mais en 1916, il est nommé chef d'orchestre et directeur musical des Münchner Kammerspiele. Il prend part à la guerre en 1917, mais est démobilisé pour blessure. Retour, il est nommé directeur musical et chef d'orchestre des opéras de Mannheim et de Darmstadt.
D'accord.
Si je...
Mais alors très très bonne carrière visiblement, ah même ouais, ça, pour
c'est,
monter.
C'est pas fini. Hein.
Ah oui, non, mais déjà pour l'instant c'est un très beau départ.
Ouais.
En vrai, après connaissant Mannheim parce que j'habite à Strasbourg, c'est tout petit, hein. C'est avec Kiki Mannheim.
Ouais, mais après c'est plus grand ce qu'il fait. C'est déjà bien pour commencer.
C'est un bon début,
il faut bien commencer quelque part.
Oui, d'accord. C'est un bon début. Franchement, très bon début.
Alors, après la guerre, désireux d'associer le texte, la musique et le mouvement, il se consacre à l'étude de la composition. Il abandonne ses fonctions à l'opéra de Darmstadt. Et en 1920, il épouse Alice Solschler, dont il aura une fille qui s'appelle Godella.
Alors, prénom très original, pour ces années 1920.
Ah bah, je me suis dit, est-ce que je l'ai? Je suis en mode, ouais, mais Godella, c'est marrant quand même.
Ouais, bah voilà. Ouais, bon.
Elle est née en 1921.
Elle a dû souffrir à l'école.
Alors, ça devait être compliqué, effectivement. Enfin, je veux dire, pour un prénom si original, bon.
Voilà.
C'est un risque.
Et du coup, après avoir vu sa fille Godella, il a étudié Claudio Monteverdi et il éprouve une passion pour la Renaissance italienne et fera de nombreuses adaptations d'Orfeo. Donc Orfeo et Eurydice, Orfeo, Mon Eurydice. Enfin, c'est assez connu.
Oui, je pense que
tout le monde l'a,
Ça dira quelque chose. Au moins quelqu'un dans l'assemblée.
Oui, oui. Et en 1937, il compose son plus grand succès dont j'ai parlé ce soir, Carmina Burana. C'est une œuvre inspirée des chants du Moyen-Âge qu'on était à toi dans une abbaye de Ottenburen. Donc bon, on en parlera plus tard, comme je disais tout à l'heure.
Okay.
Et, donc le compositeur a trouvé sa voix en 1939. Il écrit Der Mond, la lune. Et là, c'est bien prononcé.
Ah non, visiblement, on voit les progrès, ils arrivent un peu que progressivement dans la chronique.
Et on a Dick Kluge, l'époussage, voilà. Alors, en 1943, il compose les Catulli Burana pour compléter ce triptyque païen, le Trifonio di Arfonte, et en 1953. Par suite, il n'écrit plus que pour le théâtre musical et des pièces telles que Antigone ou De Temporum Fine Commedia, sa dernière œuvre qui reviendrait aux formes théâtrales sacrées avec des danses rituelles. Et en 1961, il fonde une école au Mozarteum de Salzbourg, puis donne des conférences pour présenter sa méthode pédagogique.
Multi-polyvalent, oui. En plus.
Et du coup, voilà. Et là, on arrive à peu près à la fin de Karl Orff. Du coup, considéré par tous, Karl Orff s'éteint dans sa ville natale le 29 mars 1982. Il a été marqué par la musique de son temps, attiré par Arnold Schrödinger. Attiré par Arnold Schoenberg ou Richard Strauss. Alors, il n'éprouvait cependant rien pour la musique atonale, parce que c'est les pères de la musique atonale.
D'accord.
En 12 tons, assez compliqué à jouer et à chanter. Voilà, si vous voulez, j'en pourrais faire une chronique dessus, ça peut être intéressant.
C'est vraiment un homme de son temps.
Et donc, Carmina Burana, ça reste de nos jours la pièce la plus connue du compositeur, celle qui a réussi à s'imposer à tous.
Oui, tout à fait.
Ouais. Et comme vous l'avez compris, Karl Orff a vécu pendant la période de la Seconde Guerre mondiale. Du coup, on peut se demander si c'était plutôt une victime ou un sympathisant du régime. Je trouve ça intéressant comme.
C'est très intéressant. Ça,
quand tu parles d'histoire, Mathieu, je pense que ça peut te parler. Tout
oui,
ça.
Effectivement, j'ai hâte de voir ça.
Et oui.
Toujours la Power, la radio de la bonne humeur.
Alors oui, toujours, abusez-vous bien avec André.
Oh, mais bon, voilà, c'est parti.
Ça va,
je le sais la suite, c'est passé la partie.
Il y a eu des sujets.
Voilà. Bon, partons. Alors, il n'existe pas de consensus concernant Orff, donc lors de cette sombre période, En effet, les deux thèses principales qui s'affrontent sont extrêmement opposées. D'un côté, celle qui soutient que le compositeur était à peine toléré par le régime nazi, voire qu'il en fut une victime directe. De l'autre côté, les détracteurs de Orff en font un collaborateur apprécié et partisan de l'idéologie nationale socialiste jusque dans sa musique.
Ah ouais, d'accord.
Après, son amitié avec le résistant anti-nazi Kurt Huber joue en sa faveur. Cependant, lorsque Huber fut arrêté, Orff refusa d'aider de l'aider de son influence. Ainsi, il expliqua à sa femme, à la femme de son ami, que si son amitié avec ce dernier était révélée, il serait ruiné. Alors Huber, du coup, fut exécuté en février 1943.
Ah, ouf. Let's go.
Allez hop, fin d'une amitié, allez, par la mort.
Reste une piste, hein.
Et Orff, du coup, il exprimera quand même ses regrets et fera une demande de pardon dans une lettre à sa femme, quand même, à la femme de Huber. Mais bon, c'est trop tard, quand
c'est
même.
C'est un peu trop tard, quand même.
C'est un peu trop tard, mais bon.
Dommage.
Tard que jamais, comme on pourrait le dire.
Et, ouais. Et là, je pense qu'on peut parler aussi un peu de son œuvre pendant la période nazie, parce que ça, c'est intéressant aussi. Alors
parti.
Du coup, merci. Attention, oui, c'est la bonne page. Donc Carmina Burana, en fait, c'est bien l'œuvre la plus phare de Orff. Elle a été créée à Francfort le 8 juillet 1937. Le musicien a 42 ans, la considère comme le début de sa renaissance musicale. Et la réaction du régime nazi est mitigée. L'utilisation du latin au détriment de l'allemand, la tendance érotique de certains passages et même des influences russes sont autant des arguments en faveur des partisans de Karl Orff opposés au régime.
Ah oui, d'accord.
Mais les nazis s'approprient tout de même bien vite cette œuvre qui rencontre un succès considérable. Ainsi, le journal officiel écrit que cette œuvre est le genre de musique claire, tempétueuse et disciplinée de notre époque. Et notre époque en a besoin.
D'accord.
Donc, au final, au début, c'était un peu mitigé. Puis après, ils l'ont entendu, ils étaient en mode ouais, mais finalement.
En fait, ils se sont dit bon, allez, tout est bon à prendre, on va essayer d'en tirer quelque chose.
Ouais, c'est ça.
Il y avait une grosse réalisatrice, pareil, c'était comme ça. Ils l'ont récupéré, une grosse réalisatrice allemande. Ils l'ont dit bon, bah non, en fait, c'est soit toi tu te fais tuer, ou alors tu viens nous faire des films de propagande. Allez, hop, hop, hop.
C'est Leni Riefenstahl.
Oui, Leni Riefenstahl, voilà.
Attends,
c'est en fait, qui en plus d'être connue pour avoir réalisé des films de propagande nazie, a été. L'inventeuse du travelling. Voilà.
D'accord.
Oh, ouf. Bah là, et voilà qu'on en apprend des choses.
Elle a inventé le travelling.
Est-ce que tu peux dire son prénom, que tout le monde l'entende bien?
Leni Riefenstahl.
Leni Riefenstahl.
D'accord.
Voilà, inventeuse du travelling. Du travelling.
Ok.
Alors, on sait aussi que Orff, il a été parfois rémunéré. On revient dans l'œuvre de Orff, du coup.
Ah, mais avec plaisir.
Il a été parfois rémunéré par le régime pour ses travaux, notamment pour avoir proposé une alternative à l'œuvre censurée du juif Félix Mendelssohn Bartholdy. Le rêve d'une unité. Non, ça vous parle, ça c'est connu.
Alors, le rêve d'une unité, ça commence à me dire quelque chose.
Il y a la marche nuptiale, toujours dans les mariages et tout là. C'est ça, c'est ça.
Et voilà.
Ok.
On l'a.
Eh bien, bravo.
On a la référence. Super.
On a galéré.
Du coup, en fait, là, Orff, il répondait une demande officielle du pouvoir à laquelle certains compositeurs n'avaient pas répondu. Cependant, le projet, en fait, il avait déjà germé dans l'esprit de Orff de refaire une adaptation du coup du rêve d'une unité. Alors, on peut aussi parler des Schmurfwerk.
T'inquiète pas, sincèrement, on ne t'en voudra pas. J'ai fait LV-4 allemand.
Parfait.
Donc, je ne ferai pas mieux.
Moi, je fais un petit bisou à Marielle, Camille, Anou qui rigolent à chaque fois en ensemble vocal quand je chante en allemand, mais je les aime.
Allez, ça fait toujours plaisir.
Et du coup, ouais, ils parlent donc les. Je ne redirai pas le nom, mais ça veut dire école et travaux concrètement, collés. Il rédigea, en fait, c'était également très apprécié par les pédagogues nazis. Entre 1933 et 1937, il entreprit de les conformer le plus possible aux exigences de ces derniers.
Alors, décidément, ces nazis, ils aimaient beaucoup de gens. Hein.
Ah ouais.
Bah, tout est bon à prendre à chaque fois, ouais, hein, ce genre
ça,
de régime.
Ça,
hein,
ça.
Malheureusement.
Et du coup, il ne laissait pas de dénaturer l'esprit original de ses cahiers d'exercice. Hein. Et de plus, les attentes des nazis en la matière n'étaient pas fondamentalement différentes de son esprit, enfin de cet esprit. Les deux en fait partie appréciaient en effet la musique populaire, les chansons folkloriques. Là. Et Orff ne fait presque aucune remarque sur l'association de certaines de ces musiques à l'esprit de la théorie raciste, notamment Blut and Boden, le sang et le sol. Enfin, sang et sol. Et il se déclare ainsi heureux que ses objectifs correspondent au plus au point avec tout ce qui est requis de nos jours.
Ok.
Voilà. Donc si Orff a bien été l'opposant au régime nazi qu'ont généralement décrit ses proches et sa famille, il a préféré faire profil bas entre 1903 et 1945. Probablement pour ne pas mettre en danger sa carrière, mais aussi sa vie. À l'inverse, si on considère que, comme beaucoup, il n'était pas hostile à la cause nazie, il a tout de même gardé une attitude globalement neutre qui favorise d'autant plus la polémique et les débats à son sujet.
D'accord, c'est très intéressant.
Ouais.
En tout cas, ça fait partie de la vie d'un artiste qui est assez qu'on
intéressant,
pas forcément voir dans nos artistes contemporains.
C'est
une belle histoire.
C'est vrai.
Ainsi, il n'a jamais adhéré au parti nazi, mais acceptait quand même de composer pour lui. Donc il n'a pas non plus fui l'Allemagne comme beaucoup d'autres nombres.
La difficulté du débat.
Ils avaient des thunes à revendre.
Bah, exactement. Et du coup, après la guerre, Orff, il traverse une grande peine. Sans comprendre la procédure de dénazification, c'est pas facilement disable. Bon, ça dit difficilement.
Ouais,
mené par les alliés, fort de ses liens avec Hubert, celui qui est mort. Vous vous souvenez là ?
Ah oui, oui, c'est vrai.
Il se dit membre de la cellule de résistance de la Rose Blanche. Donc ça peut pas être vérifié. Donc
Ah bah écoute.
Je sais pas si vous connaissez, c'est un parti de résistance qui a été créé par les étudiants du coup.
Oui, ça me dit quelque chose, mais ce gars-là il a vraiment bouffé à tous les râteliers.
Un petit peu quand même.
C'est tant que les nazis étaient au pouvoir, tant mieux, vas-y, on va bosser, on va collaborer. Et quand les nazis étaient plus là, il fait non, j'étais résistant depuis le début.
C'est un peu compliqué, genre. Ouais.
Ah, c'est toute la complexité à chaque fois.
C'est la complexité de la question, genre.
Mais j'ai jamais pas.
Après, concrètement, ouais, enfin, c'est. Son métier, il faut bien qu'il mange, qu'il travaille, c'est donc concrètement. C'est un peu compliqué.
Mais après, concrètement, j'ai pas vu un retournement de veste aussi prononcé que depuis Arturo Brachetti, quoi.
Non, mais c'est comme par exemple Anne Van Migrine. Enfin, je sais qu'il y a la vidéo de Squeezie là-dessus, hein, qui fait qu'il avait vendu des faux tableaux au régime nazi, qui après avait tourné sur le côté, bah non, c'est un acte de résistance, puisque j'ai vendu des faux tableaux et non pas des vrais tableaux, alors que de base, c'était simplement du bon gros commerce en mode, bah, juste des fleurs à me faire, tiens, allez. Et oui, bah, bon, c'est toute la complexité
C'est la complexité de la question.
De l'histoire,
toute la complexité.
Du coup, après ça, la période nazie, il est quand même encore autorisé à composer et produire ses œuvres en public.
D'accord.
Bon, je pense que c'est une petite pause car l'histoire de Orff était quand même assez dense.
Alors, tout à fait.
Bon, après, je la trouvais hyper intéressante de parler d'art pendant la période de la Seconde Guerre mondiale.
Très intéressant, tout à fait.
Et je vous propose d'écouter Esse Gratum tiré de Carmina Burana. Soit voici le bienvenu en français, du coup.
C'est tout de suite.
Eh bien, allons-y.
À l'horloge du studio, j'ai été pris au dépourvu, incroyable, vous êtes toujours dans la Happy Hour, c'est toujours ténor, non, plutôt à l'ouest.
Exactement.
Mon cher Andreas, je te laisse continuer.
Très beau jeu d'acteur.
Je pense qu'après les Sondorf, on peut parler de Carmina Burana, mais avant, J'ai fait une petite recherche pour vous. Je vous avais parlé de cantate en début.
Ah, voilà. C'est alors, le moment Wikipédia.
Définition de la cantate. Une cantate, Wikipédia. C'est une composition vocale avec un accompagnement instrumental requérant parfois un chœur qui comporte plusieurs mouvements. Alors, la cantate se développe et se partage en deux catégories. Elle peut être basée sur un texte ou thème profane ou sacré.
D'accord.
Bon, il y a des noms en italien, mais ça vaut pas à moins, du coup, parce qu'on ne parlait pas italien, tout je pense.
Oui, alors, bon...
Alors, à la différence de l'opéra, la cantate ne comporte aucun aspect théâtral ni dramatique. La priorité est donnée de l'expression mise en musique.
D'accord, donc en voilà. Fait, on est... Ouais, ok, je vois, donc merci de nous avoir éclairé de ta lanterne. Nous te prions de continuer ta super chronique.
Ça marche, commençons. Alors, du coup, les Carmina Burana, une cantate scénique composée par Karl Orff en 1935 et 1936. Alors, le titre complet en latin. Alors, attention, j'ai travaillé.
Allez, ouais, c'est ton moment.
Courage.
C'est Carmina Burana, Cantiones Profanae, Cantoribus, et Choris Cantadae, Comantontibus, Intrimentis Atque, Imaginibus, Magice. C'est ça, Benji?
Ouais, c'est ça.
Ah ouais, hey, tu sais qu'au fur et à mesure que t'avançais, il y avait les yeux, ils étaient là, ils s'écarquillaient, genre, oh, il a travaillé!
Bravo!
Oh,
c'est
bon. N'empêche que le début de début là, ça a dépassé n'importe quel mot que t'as prononcé en allemand dans ce début de chronique.
Merci, donc là, je suis mieux du coup.
Juste, Andreas, petite critique. C'était du latin et pas de l'italien, t'étais pas obligé avec les signes de main comme ça là.
Pardon,
c'est pas obligatoire.
Mais ça m'aidait.
Non, mais en fait, c'est parce que c'est de l'italien, du latin prononcé avec
un accent italien.
Et ça se fait pas mal, ah ouais. Et notamment le morceau est chanté en latin avec une prononciation italienne. Alors
c'est
que c'est un allemand qui a composé.
Ah oui, bah oui, parce qu'on parle de latin, langue morte, tout ça, mais il y a eu des accents, accents dans le latin.
Ah, mais c'est
vrai qu'il y a des accents en latin.
Un latin marseillais, s'il vous plaît.
Il y a plusieurs types de latin, genre il y a le latin allemand, latin italien, latin français.
Principalement,
ouais. Bah, c'est comme ça qu'après ça c'est.
Benji, c'est pas très fan.
Techniquement, c'est ce qui a fait les langues, genre les accents entre les différentes régions, c'est ce qui ensuite a fait les langues latines.
Ah, mais c'est totalement ça.
C'est que d'abord c'était des accents, ensuite ça a donné des dialectes, et ensuite des langues. C'est l'enchaînement, quoi.
Exactement.
Et oui. Voilà. Et donc, du coup, je vais vous dire le titre en français, parce que je pense que ça vous parle plus, parce que vous avez pas tous fait LV3 latin.
Non.
Alors, moi, si, j'en ai fait un an, mais bon, j'ai arrêté parce que ça prenait trop de temps et. Voilà.
J'ai fait ça au collège, mais pour les points du brevet, tu connais, hein.
Ouais, bon, j'ai mis un petit coup LV3, j'étais en mode, ouais. Puis après, j'ai vu que j'avais 11, j'étais en mode, la musique où j'ai 19, c'est mieux quand même, hein.
Totalement.
Alors, en français, du coup, ça veut dire, parce que j'en suis soit en français, poème chanté de Buren. Ou de Bourronne, j'ai pas trouvé de prononciation exacte.
D'accord, non mais il faut le prendre. Hein.
Du coup, c'est chant profane pour chanteur soliste et chœur avec accompagnement instrumental et image magique.
Image magique.
C'est beau, image magique, je trouve.
C'est génial.
Ouais, c'est joli, hein.
En vrai, c'est mieux que le mot effets spéciaux. Il devrait dans les génériques de films.
Images magiques.
Images magiques, Patrick.
Mais quand j'étais petit, nous, on avait, si on était sage, on avait des bons points et on pouvait, avec 10 bons points, on avait des images magiques.
Oh.
C'est des images qui changeaient. Ça, tu sais quoi.
C'est un gif, quoi.
C'est un gif
dans la vraie vie, quoi.
Eh ouais.
C'est trop bien.
Et donc les Carmina Burana, c'est en fait une triphonie, je l'ai dit tout à l'heure, une trilogie musicale incluant les cantates Catue le Carmina et Trifonio di Afrodite. Je crois que ça se prononce comme ça avec
l'accent. Ouais, je pense que tu l'as.
C'est pas si l'italien. Et le mouvement plus célèbre est le chœur initial O Fortuna, repris ensuite de manière écourtée à la fin de l'œuvre. Alors, par l'intermédiaire d'un bouquiniste, donc Karl Orff entra en possession d'un recueil de poèmes médiévaux intitulé Carmina Burana. C'est en 1847 que le bibliothécaire de la cour de Munich, donc Johann Andreas Schmeller,
un de tes homologues.
Un de mes homologues, mais avec un R roulé, quoi, parce qu'on est en allemand.
Andreas.
Publié cette anthologie qui se base sur un manuscrit probablement rédigé entre 1220 et 1250,
D'accord.
En Styrie ou au Tyrol du Sud, on ne sait pas trop. Qui fut découvert en 1803 au couvent de Benedikt Buren. Un couvent bénédictin, concrètement. C'est également à Schmeller qu'on a le titre du recueil Carmina Burana.
En fait, le mec, il a pas fait un opéra, il a fait de l'archéologie. Ça, c'est beau.
Et c'est même de l'archéologie presque religieuse et musicale. Et là, on est quand même sur quelque chose d'assez incroyable.
Après, religieuse, vous allez voir de quoi ça parle.
D'accord.
C'est religieux, mais pas si. Il y a un truc un petit peu, tu te dis, ah ouais, dans la religion.
À tout moment, je retire le mot là, je le garde en main.
Et du coup, le manuscrit contient, classé par thématique, plus de 200 chansons et poèmes en bas latin, en moyen haut allemand et en vieux français. Alors, concrètement, définir ce que c'est que le bas latin, le haut latin, j'en sais rien. Le moyen haut allemand, s'il est bas, haut, médium, point centre, je sais pas.
Alors,
bref,
moi, je peux le dire.
Ah, tu sais la différence, toi ?
Alors, le haut latin, c'est du latin qui était parlé par, les Romains, par les de Rome, et vraiment les citoyens et tout ça. Et ensuite, on a ce qu'on appelle le latin vulgaire ou le bas latin. En fait, c'est, c'est tous les noms qu'on donnait au dialecte latin un peu partout dans l'Empire romain.
Eh bah, tu m'as appris un truc parce que j'ai pas eu le 30 ans de chercher ça pour la chronique.
Voilà,
donc
le latin vulgaire, c'est le latin de la plèbe.
Je voulais faire une petite blague sur le parcelle qu'on a fait ce matin qu'on repasse en lâchant un petit point centre.
Non.
Par contre, évidemment, le vieux français, tout le monde connaît, hein, bien sûr. Hein. J'ai des exemples dans mon téléphone, mais j'ai pas.
On mange à Sion.
Si on a un peu de temps, on pourra en parler en fin d'émission.
ACI qui attendre pleut, tout vient à toi.
Let's go. Et ainsi qu'un certain, donc il y a aussi un certain nombre de strophes réunissant en fait ces différentes langues. C'est mélangé, c'est un petit mélange.
D'accord.
Un petit mix and twist.
Mix and twist.
Voilà.
Magnifique.
Et en fait, ce qu'on a pas, c'est du poulet.
Et à côté de scènes religieuses ainsi que d'attaques en règle contre la décadence des mœurs et la corruption des pouvoirs publics et du clergé, figurent des textes qui célèbrent avec verdeur et sensualité le plaisir de manger, de boire, de jouer et d'aimer. Karloff avoua qu'en bon varois, il s'est senti si profondément touché par le rythme entraînant et le caractère imagé de ses poèmes, tout autant par la musicalité riche de ses voyelles et la concision unique de la langue latine. Voilà, c'est une belle phrase de Orff, je trouve.
Ah oui, tout à fait.
Et du coup, il considéra spontanément à mettre en musique quelques pièces. Il commença spontanément à mettre en musique quelques pièces dès qu'il a eu le manuscrit. Et conseillé dans le choix de l'étude des documents par l'archiviste Michael Hoffmann. Je sais pas comment on dit Michael en allemand. Michael.
Donne-moi ta chronique. Est-ce que je vais pouvoir? Michael. Ouais, Michael en vrai.
Michael.
Hein.
Michael.
Ouais.
Michael.
Ah là, Michael Hoffmann.
Michael. Ouais, Hoffmann. Ça me semble.
Ouais, ça me paraît bien. Et il ne se contenta pas d'établir rapidement la structure du texte. En quelques semaines, toute mon œuvre fut jouable, de sorte qu'au début du mois de juin, je puis mettre en route pour aller voir mon éditeur. Je puis me mettre en route pour aller voir mon éditeur. Je n'avais pas pour base mon exécution qu'un texte tapé à la machine. La musique était tellement achevée et vivante en moi que je n'avais pas besoin de soutien d'une partition. C'est le mec qui arrive, il me fait hop. Vous avez vu, genre même pas dans une partition, tout est dans ma tête.
Je suis trop fort les gars.
Exactement. Et donc lors de la création le 8 juin 1937 à l'opéra de Francfort, sous la direction de Bertil, je me suis juste mis le nom pour le challenge. Wurzelberger.
Ah, par pitié, donne-le-moi, je vais essayer de l'avoir.
Bertil.
Alors, Bertil. Attends. Alors, ok. Wetzel. Alors, Wetzelsberger. Alors, je sais pas le W, comment on peut l'avoir.
Tu dois faire honneur à mes racines alsaciennes, donne-moi tout ça.
C'est deuxième ligne, deuxième paragraphe.
Je propose de lancer un Kickstarter pour offrir un traducteur.
Okay.
Ou un interprète.
Wurzelberger.
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 Eh ben c'est Bertil Wurzelberger, voilà. Merci.
Ah, mais tu sais, t'es en mode, t'es sur Google Traduction, tu codes, tu mets à côté du micro, tu fais Wurzelberger.
je vous donne un petit cheat code pour prononcer des noms allemands correctement. Vous imaginez que vous êtes en train de prononcer un sort dans Harry Potter.
Mais non.
Et genre, vous faites un stupéfix, mais
justement.
Quoi?
Du latin, justement.
Ouais, mais vous imaginez avec la même arme, genre stupéfix, mais non, en fait, tu dis Wurzelberger. Tu vois, c'est... même arme.
Vas-y, j'essaie sur les prochains du coup.
Vas-y.
Donc, Lecteur Minerverona, chanson profane pour soliste avec chœur, accompagnement instrumental et tableau. Alors, des fois, ils disent et tableau, mais image magique, c'est mieux, je trouve.
Ouais, image
puisque
magique.
Puisque tel était désormais le titre de cette œuvre, connurent un accueil triomphant et se vit rapidement ouvrir les portes des opéras, des salles de concert ainsi que les salles de fête des universités, des écoles et du monde entier. Au moins tout ça. Après la répétition générale, Karloff alla trouver du coup son éditeur pour lui faire cet aveu souvent cité. Vous pouvez mettre au pilon tout ce que j'ai écrit jusqu'à présent et vous avez malheureusement imprimé. Mes œuvres complètes commencent avec Carmina Burana. Le mec il est grave content de son œuvre. Après c'est bien.
Ouais. Ah ouais, oui, bah après s'il est très content de son œuvre, ouais, c'est ça, c'est important de montrer à quel point on est super heureux.
Exactement. Du coup, une analyse plus approfondie des œuvres de Orff, composa avant 1937, révèle néanmoins que le compositeur avait déjà travaillé sur la stylistique de Carmina Burana, avec un esprit de suite et une cohérence remarquable. Donc le caractère d'Orff a débuté en 1915, date à laquelle il fut nommé maître de la chapelle de Kammerspiel de Munich.
Voilà,
ça marche, ça.
Tu vois,
pas
ça marche
mal,
mieux.
Pas mal.
À son retour de la Première Guerre mondiale, donc il se... oui, 2 minutes, point. À retour de la Première Guerre mondiale, il se vit confier des postes semblables à Mannheim et Darmstadt. Ouais.
Strat, oui, tout à fait.
Je l'ai dit tout à l'heure, en plus. Et en 1924, il fonda avec Dorothée Günther, la Günther School. École Gunther, de gymnastique, danse, musique, et se laissa très tôt fasciner par les forces élémentaires du rythme. En s'inspirant de Bartok et de Stravinsky, il recherchera l'expression archaïque et folklorique, simplifiera son langage musical, allant jusqu'à Freud l'univers magique et culturel. Alors les adaptations qu'il effectuera envers des œuvres scéniques anciennes telles que Orfeo de Monteverdi et la quête des relations entre le mouvement corporel et la motricité rythmique le conduisent dans les Carmina Burana, à la fois vers une œuvre scolaire à visée pédagogique interprétée sous les instruments primitifs, vers une fusion scénique de la musique, du verbe et du geste.
D'accord, mais c'est fort intéressant tout ça, mon cher Andrés.
Et contrairement à ses contemporains Prokofiev, Hindemith ou Mio, oh, bah, même sur les Français maintenant, c'est bon.
En fait, à force de dire de l'allemand, l'italien, on en perd
plus, on se perd dans la culture, c'est tout.
Ça. Genre, il y avait aussi un autre compositeur que personne connaissait, je suis allé voir, je ne connaissais rien de lui, j'ai dit, bon, je pense que je peux ne pas le dire parce qu'il y avait vraiment un nom à couger debout.
Mais non,
comment...
le pauvre.
Bah, du coup, Orphée.
Ouais. Déjà qu'il n'est pas connu, le pauvre. Hein.
Bah, on en parlera d'une pour cette chronique, si je m'en rappelle.
Ok, pour la prochaine, on retient.
Et du coup, Orphée, donc contrairement à ses contemporains, Orphée restera attaché à des moyens stylistiques apparemment dépassés, qui pouvaient le faire passer en fait pour un compositeur rétrograde, un simple imitateur. Ou, j'ai trouvé un mot pour dire imitateur, okay, c'est Ergodag. Donc,
Ergodag.
Edigone. Voilà. Épigone.
Épigone.
On va y arriver.
Ouais, ça va bien se passer.
Et ben ça tombe bien, je l'avais justement sur le bout de la langue.
Et oui. Donc face au résultat d'un Debussy ou du verisme italien, ou aux apparences d'un Schoenberg ou d'un Berg ou d'un Webern, la domination d'une mélodie diatonique et d'une harmonie mi majeur claire, l'utilisation des techniques de l'ostinato, l'empreinte des vastes surfaces sonores, le refus de tout contrepoint et la restriction du chant strophique apparaissent effectivement relevés du plus strict conservatorisme. Alors cependant, cette réduction dissimule une esthétique intentionnelle qui n'accorde à la musique qu'une... la musique, en fait, c'est la musique et l'œuvre d'art. Et voilà, concrètement, le traitement d'or fait subir à l'orchestre traditionnel et par contre d'une nouveauté révolutionnaire. Il est complété par 2 pianistes, 5 percussionnistes, et il éclaire un timbre métallique et martelant. Son fragmenté de la parfaite limpidité des diverses composantes, substitue au fond du romantique. Voilà, qu'est-ce que je peux vous dire un peu aussi. Les 24 numéros de l'œuvre, ils sont encadrés par une invocation grandiose et virtuose à Fortuna, la déesse des destinées et de la chance, sur un fond de percussion retentissante. Et concrètement, il y a 3 grandes thématiques, le printemps, la taverne et l'amour. Voilà, donc c'est d'abord la gaieté bucolique, le printemps, qui est évoqué dans l'unisson d'une litanie avant le rapprochement de l'éclosion de la nature, de l'éveil de l'amour.
Ah,
voilà,
l'amour.
Les carillons, les cloches... J'avais tout décrit, mais je peux vous résumer ça un peu plus rapidement parce que ça fait beaucoup de choses à dire. Et voilà.
Elle danse ta chronique.
Elle est très dense.
Il y a du bon monde dans la chronique.
Je t'ai dit lâche-toi, mais.
Ah bah je me suis lâché.
Tu t'es fait plaisir sur la chronique.
C'est presque 2 chroniques en
une. On s'était dit, oh là là, pensez qu'on aura du temps pour faire de l'émission.
Oui.
Voilà, concrètement.
Concrètement, ça va le faire.
Pour citer 3 trucs rapidement, voilà, il a écrit une danse orchestrale, c'est Uf dem Hunger.
Oh putain, et pardon, ça a été bien lancé. Bien désolé, pensé. Gros mot. Hein. Ouais, les gros enfants mots, qui là. Nous écoutent
hop,
ce soir.
Là.
Ah ouais, voilà. Là, j'ai pris un carton jaune par la régie. Mais excellent allemand, là, je veux dire.
Ouais.
Pour une fois.
T'as vu, t'as lancé ton sort correctement.
Voilà, il a aussi écrit une plainte, une chanson qui parle de plein de jeunes filles en moyen haut allemand. Matinée en bas latin de Florette, ça s'appelle Florette Silva Nobilis. Voilà, après, qu'est-ce que. Ça parle de... Ils disent que c'est des femmes qui essaient d'envoûter des hommes par un savant maquillage, la magie, tout ça. Ils parlent aussi d'une fois d'une reine d'Angleterre qui pourrait être Aliénor d'Aquitaine. Hein. Voilà.
Aliénor d'Aquitaine, tout à fait. Qui
a épousé le roi Henri II.
Oui, exactement. J'essaie d'être en train de trouver le roi. Mais voilà. C'est grâce à ça.
Mais hein. il a pas épousé que ce roi-là.
Ah.
Il en a épousé... Il a épousé aussi un autre roi français. Elle a épousé un autre roi français. Elle a, justement, c'est elle. Elle
Richard Cœur de Lion, non, c'est pas ça.
Non, c'est la mère de Richard Cœur de Lion, Léonard d'Aquitaine.
D'accord.
Ah oui.
Enfin voilà. Bon,
putain, mais j'ai fait une chronique sur Richard Cœur de Lion et je suis pas capable de.
Oh là là, mais quel noob.
Mais du coup, ouais, c'était la partie sur le printemps. Après, il y a la taverne, Il Taverna. Du coup, ça parle de plein de trucs, notamment d'un truc pour ténor avec voix de fossé où c'est un cygne qui rôtit dans la poêle. Donc en fait, ça offre une parodie du ténor bouffant. C'est un rôle comique de l'opéra.
Bah écoute, super.
Il y a un discours d'ivrogne, le saint patron des dés. Voilà, concrètement.
Alors très cher Alexandre, justement sur ce que tu viens de dire, je suis en train de voir et c'est Louis VII de France qui a été époux
de Aliénor d'Aquitaine. Voilà, je viens de regarder. C'est le fast-checking de la pire.
D'ailleurs, pour la petite blague, Aliénor d'Aquitaine et Louis VII ne s'entendaient pas du tout parce que Louis VII a été élevé de base pour être un clergé.
D'accord.
Et lui, il pensait qu'à la religion toute sa vie.
Ouais, donc
et
Aliénor
d'Aquitaine était plus avec une culture beaucoup plus de Languedoc. Mmh. Avec tout ce qui était festival, tout ce qui était.
Oui, donc là on est sur une rencontre, un petit choc des cultures qui est pas.
C'est ça, et du coup voilà. C'est pour ça qu'elle s'est concrètement barrée en Angleterre.
D'accord,
c'était une des raisons.
C'est la petite anecdote
elle
quoi.
Elle est partie acheter des clopes en Angleterre.
Concrètement. Je reviens, je vais chercher un pack de lait. Ah oui, mais le pack de lait n'existe toujours pas. Oui, bon, elle est déjà partie.
Donc, ça, c'était la taverne, du coup. Concrètement, c'était son célèbre plaisir de boire avec une exubérance orgiaque.
Orgiaque, tout à fait.
Dernière partie, c'est le corps d'amour. Donc, au début, c'est assez innocent. Et après, il y a un poème érotique qui apparaît comme ça, genre, qui s'appelle Sipuer Cum. Et pas que, voilà.
Il n'y a pas encore eu d'anglais hein, dans la chronique, maintenant on en a eu.
Ça c'est bon.
Si pour cum poulel. Poulella.
Ça va aller, respire.
Allez.
Poulella.
Poulella.
Voilà, génial. Il y a aussi un autre poème un peu érotique, c'est Intrutina. Alors là, c'est un tendre aveu amoureux.
La religion, voilà. Nous disons.
Et ça se finit du coup sur la reprise de Oh Fortuna. Voilà, on peut conclure concrètement, voilà. Moi je peux vous dire que j'ai bien apprécié faire cette chronique. Hein. Donc vous en avez pensé
quoi? Nous avons entendu et nous sommes ravis de t'annoncer que nous avons passé un très bon moment parce que Carmina Burana est une œuvre qui est très connue. Enfin en tout cas, on voit de quoi ça parle, on connaît pas forcément l'œuvre dans sa totalité et là on a au moins un a priori, un aperçu de ton regard critique et qui est vraiment qui est super intéressant.
Ouais, puis donc là personnellement j'ai kiffé faire cette chronique. Bon, j'ai l'impression de dire ça à chaque fois, mais après grâce à cette chronique, je me suis posé des questions que je m'étais pas forcément posées, comme par exemple la relation que peut avoir un artiste ou un compositeur avec un gouvernement tyrannique, ou bien quelle serait la pression que pourrait subir un compositeur qui aime son esthétique musicale, mais qui expérimente moins que ses contemporains, mm-hmm. qui ont une esthétique plus poussée, et surtout comment bien prononcer le nantais de Termina Burana en latin.
Voilà, exactement.
Oui. Donc si jamais, en première partie d'émission, vous avez entendu le Quartesat de Orff, hein, et en seconde partie, vous avez entendu du coup Cours d'amour, qui est la troisième partie de Termina Burana.
Bon, alors des fois il y a des gens qui crient en arrière-plan, ça fait partie
Mais c'est folklorique, c'est populaire.
Le cœur d'amour, c'était le morceau qui passait en fond depuis un bon quart d'heure déjà.
Ouais, et c'est l'extrait du coup de Carmina Burana. Et je pense que pour terminer cette chronique en beauté, je pense qu'on peut passer l'extrait le plus connu de Carmina Burana.
À quelle heure quand même?
J'ai dénommé Oh Fortuna.
Fortuna.
Bon allez, bonne soirée, c'était Andreas pour Ténor, non à l'Ouest.
Merci à toi.
Merci Andreas. We'll be right back.
21h40, vous êtes dans la Happy Hour jusqu'à 22h avec nous sur Radio Alpa. Et maintenant, c'est mon cher Alexandre qui va présenter sa super chronique. Nous sommes tout oui, mon cher Alexandre.
Eh bien, aujourd'hui, j'ai encore décidé, pour 2 semaines d'affilée, de vous parler de Pokémon. Ah, Pokémon, ce jeu qui a bercé toute notre jeunesse, qui n'a jamais rêvé de partir dans le monde de Pokémon, partir à l'aventure avec son Rattata et affronter les plus forts dresseurs que l'on peut trouver sur sa route. Eh bien, ce sont des foutaises, des conneries, ou je dirais même des crottes de taureau.
Il y a un gros mot là.
De taureaux, des crottes de taureaux, ça.
Encore tout à l'heure, il y a eu le carton jaune avec l'insulte de tout à l'heure, et encore, c'était pas une insulte. C'était un juron.
Un gros carton jaune.
Un juron, pour être précis. Je crois qu'il va pas être content.
Le carton jaune, ça va très rapidement.
Mais c'est vrai que, t'inquiète pas, Alex, je suis nul en allemand, mais sur les noms de Pokémon, je peux tous les corriger, je les connais tous par cœur.
Eh bah, c'est parfait, parce que tu ne voudrais jamais vivre dans le monde de Pokémon.
Vas-y, qu'on va
voir. Et dans ce questionnement, je vais te dire pourquoi est-ce que tu ne veux pas vivre dans le monde de Pokémon. Ok, tout d'abord, parlons un petit peu thunes, car oui, vous allez partir à l'aventure, il vous faudra manger, boire, et vous allez avoir besoin d'argent, et de beaucoup d'argent.
Oh bah ça, c'est pas les étudiants qui vont te dire l'inverse.
Mon frigo me dit la même chose, Clément.
Il faut savoir que
il y a deux steaks dans mon frigo, c'est tout.
Le Pokémon est le yen et est calqué entièrement sur son homologue japonais. Ce qui veut dire que, par exemple, quand votre mère vous lâche dans la nature et vous laisse partir pour vous battre contre les meilleurs danseurs, elle vous laisse avec 3000 yens, ce qui correspond à peu près avec 22 euros.
C'est pas les yens, c'est les pokés normalement dans Pokémon. Non.
C'est les quoi?
C'est les pokés.
Poké dollars, mais
qui sont calés sur les yens.
C'est les poké yens qui sont calés sur les yens.
Exactement.
Mais 22. Et dire que perso, je me plaignais de mes APL, mais 22 euros pour partir à l'aventure, c'est un peu chaud.
Bah 22 euros, c'est une semaine de course, quoi.
Tu peux faire un petit trajet en tram, tu vas genre à l'université, tu vas un petit coup à Eve.
Ça peut être une journée, quoi. Ouais. Mais facile une journée, quoi.
Tu vas à part de Paris Beauvais, pourquoi pas.
Mais en plus, ce qu'il faut se dire, c'est que quand on finit l'aventure et qu'on finit par affronter le conseil 4 et qu'on finit par battre Peter, on obtient une somme faramineuse de 46 euros, ce qui est absolument incroyable.
Et il y en a, les 46 balles, ils les ont pas sur son compte bancaire. Moi.
Oui, bah moi aussi, je fais partie de ce gang-là.
Moi, ça va pour l'instant. Ça va.
Ouais, non, ça va.
Mais demain. Ce n'est pas le pire. Est-ce que vous connaissez un petit peu en économie, genre les basiques?
Ouais, on a fait un petit partiel d'économie skip mardi.
Ouais,
skip, hein, la même agent pareil que vous. Produit A, produit B, je sais pas trop quoi.
Basiquement, l'une des lois les plus fondamentales de l'économie dit que si un objet est rare, alors son prix augmente. Et que le prix est également régulé par la concurrence.
Ouais, ouais.
Sauf que voilà, on est dans l'univers de Pokémon et il n'y a qu'une boutique par ville qui vend systématiquement les mêmes produits. Si le prix des Pokéball n'évolue pas durant le jeu, rien ne n'empêche aux fabricants de Pokéball d'augmenter le prix des Pokéball quand ils le veulent, puisqu'il n'y a pas de concurrence. Et puis tout le monde sera quand même obligé de les acheter. Aussi, je tiens à vous rappeler que tous les produits de première nécessité sont super chers. Le lait de d'Écremeux est à 500 yens, soit 4 euros. Et si, ici, je ne vous parle pas des autres produits. C'est tout simplement parce que il y en a pas d'autres. Il y a que le lait Meumeux que l'on peut acheter, qui est à peu près consommable par les humains.
Ça, on peut avoir de l'eau, je crois.
Oh, y a de l'eau fraîche, soda.
Pour 90 yens.
Il y a de l'eau fraîche et du soda, mais c'est pas ce qui va te remplir l'estomac.
Il y a de la limonade. Il y a aussi des cookies, mais je crois que les cookies c'est le même prix que.
C'est pour les Pokémon. Hein.
Donc c'est pour les Pokémon les cookies.
Et au pire, on mange pas. Enfin,
au pire, on mange pas.
C'est pas un besoin vital.
Notez qu'ils vont pas aux toilettes.
La nourriture dans ce monde est rare du coup, par extension.
Par extension, elle devient donc riche.
Mais bon. Encore, il aurait fallu se payer ses denrées. Et pour pouvoir acheter tout ça, il faut avoir un métier. Dans ce jeu, les joueurs ne peuvent exercer qu'une seule profession, c'est-à-dire dresseur Pokémon. On peut se dire qu'il fait ça par passion, mais non. Dans l'univers de Pokémon, il n'y a aucune université. Et le seul choix de carrière possible, et qui permettrait de s'élever un minimum dans l'échelle sociale, est dresseur Pokémon.
Oui, pour gagner 40 euros, c'est pas mal.
C'est ça. On peut quand même se poser une question. Comment font les habitants dans ce monde pour avoir un travail? Parce que oui, les habitants ont des métiers différents. On peut trouver des scientifiques, des ornithologues, des karatékas, des employés d'entreprise, des artistes, des marins. Sauf que, dans l'univers de Pokémon, jamais on ne les voit travailler ou exercer leur profession. On les voit tous, jour et nuit, campés sur la route du pays, attendant qu'un enfant passe devant et engager un combat contre lui pour lui prendre de l'argent.
Beaucoup, hein. Il y en a quelques-uns quand même dans la génération 4. Il y a des ouvriers qui bossent dans une mine à Cherbourg.
Concrètement, c'est tout ce qu'il y a.
On a aussi une sorte de forge, Forge Prégo, je crois que c'est le nom. Toujours la même génération, mais le reste.
Ils ont juste marqué métier, mais jamais tu les vois travailler.
C'est ça, genre. Ils se battent, en plus ils prennent des pauses quand ils veulent pour leur travail, là.
C'est ça, ouais, concrètement, ils branlent rien. Mais bon. Et si cela pose un problème, dans notre société, l'utilisation des animaux pour faire de la nourriture, du cuir ou tester des médicaments, je vous laisse même pas imaginer quels peuvent être les problèmes de société dans un monde où ces créatures, parfois même beaucoup plus intelligentes que les humains, pour rappel à la Kazam, qui est un Pokémon de type psy, a un QI de 500.
Encore, je crois qu'ils l'ont baissé.
Un QI de 3.
Je crois que première génération, c'était genre 2000.
Pour rappel, une nuit,
ils ont dû baisser.
Je crois qu'ils l'ont baissé, il me semble. Mais bon, ça reste toujours beaucoup. Hein.
Ça reste toujours énorme.
Gros cerveau, quoi.
Que concrètement, du coup, l'utilisation de ces Pokémon se rapporte globalement à de l'esclavage.
Ouais. Ah, cool.
Bref, assez parlé d'économie, parlons maintenant un petit peu de politique. Y a-t-il une administration dans le monde de Pokémon, ou quelque chose qui pourrait s'en rapprocher? Parce que oui, dans Pokémon, il n'y a pas de pays à proprement parler, et il n'y a pas vraiment de drapeau, il n'y a pas d'insigne à une région. Pour déterminer qui a concrètement le pouvoir dans une région, nous avons 4 pistes. Tout d'abord, il y a la police.
Oui.
Mais la police, elle fout rien en fait. On la voit de temps en temps, elle te tabasse un petit peu avec ses caninos de temps en temps, mais concrètement, elle fait rien d'autre.
Et seulement quand il fait nuit en plus. Quand il fait nuit. Ça passe.
Ça passe.
Concrètement.
Ensuite, on peut parler des organisations mafieuses. Par exemple, dans la région de Kanto, qui est la première région du premier jeu Pokémon, on a la fameuse Team Rocket qui sévit dans les rues. Il est vrai que la Team Rocket n'a pas l'air de se cacher et est au grand jour, puisque on peut voir que les cachettes de la Team Rocket sont des lieux très connus en plein milieu d'une ville, comme l'arène de Jadiel ou encore le casino.
D'accord.
Ce ne sont pas proprement des criminels, ce sont plutôt des espèces de yakuza qui gèrent certaines parts un peu plus sombres du pays. Mais on ne peut pas vraiment parler d'institutions.
Ouais.
Troisième piste, il y a de grosses corporations dans le monde de Pokémon qui ont réellement la main mise sur tout l'équipement Pokémon, comme nous l'avons parlé dans la première partie. Cependant, à part gérer entièrement le commerce, ils n'ont pas l'air de s'occuper du territoire, et c'est bien avec la quatrième piste qu'on peut réellement parler d'institutions politiques. Mais avant, est-ce que vous serez capable de tous les citer? Car sur Radio Alpa, je vous passe tout de suite le Pokérap.
Let's go!
C'est maintenant, c'est tout de suite, c'est imminent, hein, mon cher...
C'est tout de suite.
Ouais, attendez.
Voilà, c'est bon.
Attrapez-les tous, Articodin, Lipotou, Nidorina, Tatagnan, Spectre, Terra Cogna, Carabrux, Bronco, Rio Picker, Sferato, Staru, Magikarp, Nar, Abon, Amonista, Assécateur, Montagou, Dracon, Magma! Wow! Attends, laisse-moi reprendre mon souffle. Allez, c'est la dernière ligne droite, il en reste plus que 24. Oui, mais ça se complique. Alors écoute bien. Sablero, Kikli, Tito Guac, Arcana, Evoli, Mococo, Kabutops, Elector, Mini Draco, Kalinos, Monsieur Mime, Ocelet, Gravalanche, Volta, Orbide, encore un effort! Carapace, YouTube, Cruel, Terra, Amonita, Ramonos, Roucarnage, Arbok, et voilà c'est fini.
Attrapez donc tous ces Pokémon. Attrapez-les tous, Pokémon.
21h51, vous êtes sur Radio Alpa, vous êtes sur la P-Hour, 21h22h sur la meilleure radio du Mans.
Évidemment, on n'avait pas encore eu ce soir.
C'est vrai qu'il n'y avait pas encore eu, évidemment. Oui. Alors, du coup, je vais vous parler de la quatrième entité. Je vais vous parler, bien sûr, de la Ligue Pokémon.
Ouh.
En réalité, c'est bel et bien eux qui s'occupent d'administrer et gérer le territoire. Alors, qui sont, qu'est-ce que c'est que la Ligue Pokémon ? C'est
des joueurs de football. Ah non, pardon.
Non, pas du tout. Perdu, c'est dommage. Alors, en fait, c'est les 5 meilleurs maîtres Pokémon de la région qui s'occupent, en plus de jouer le rôle de police bien musclée dans la région, de l'administration de chaque pays. Mm. Ouais, dans l'univers de Pokémon, ceux qui gèrent les pays, c'est une junte militaire.
Ah oui, ouais.
Et ça, on aurait pu s'en rendre compte dès le début. Parce que dans Pokémon, vous allez dans...
Ce que vous n'aviez pas remarqué à la quatrième frame de l'épisode 4.
La théorie arrive. Dans Pokémon, on va de ville en ville battre contre les champions d'arène qui jouent plus ou moins le rôle de shérif du coin pour montrer qu'on est le meilleur que lui, qu'on est meilleur que lui et qu'on mérite d'être plus haut gradé. Et ça, on le voit avec les badges qui sont plus ou moins des insignes militaires. Et d'obtenir... et enfin, de se battre contre les autorités supérieures du pays pour prendre la place de grand maître de la ligue et d'être ainsi l'homme le plus fort de la région. Et puis ça, et puis en plus de ça, parlons un petit peu de l'urbanisme dans Pokémon. Chaque ville a une très faible densité. Pour rappel, dans toute la région de Kanto, on compte qu'une centaine d'habitants.
Ah ouais, je savais pas ça par contre.
Chaque ville possède au moins un centre Pokémon, un magasin au minimum, avec de temps en temps une arène. Et une arène pour se battre avec ses Pokémon.
Mais du coup, est-ce que ce serait pas un peu le Gers au univers de Pokémon pour rebondir sur une ancienne
émission. Il me semble qu'il y a une école dans toute la région.
Il y a une école, et justement, j'allais y venir parce que aussi chaque ville est spécialisée dans un seul domaine bien particulier. Par exemple, dans Kanto, on a la ville de Carmin-sur-Mer qui joue le rôle de port, ou la ville de l'avant-ville qui joue le rôle de morgue, etc. Chaque ville a son rôle. Attitré, un petit peu comme les villes usines chinoises.
Un maximum de plaisir.
D'ailleurs, comme chaque ville est reliée aux routes par un petit office de tourisme, si vous l'avez remarqué.
Ah oui, je me souviens.
Ça fait super longtemps que j'ai pas joué à un jeu Pokémon, j'en excuse.
Avec un ou deux mecs qui te disent, tu leur discutes en mode bonjour, passez bonne journée, c'est tout ce qu'ils disent.
C'est ça. Et si je vous dis que ces petits offices de tourisme toutes mignottes sont en fait des postes de douane. Permettant de filtrer ceux qui rentrent et ceux qui sortent de la ville.
Dites non à la drogue.
Voilà. J'ai craqué, putain. Oh, deuxième, excusez-moi, carton jaune.
Bref, on peut se demander pourquoi autant de protection. Et si je vous disais que le monde de Pokémon doit faire face à des menaces constantes et permanentes qui sont les Pokémon eux-mêmes.
Eh oui.
Je vous rappelle que certains Pokémon sont juste tellement pétés qu'ils ont des capacités presque divines. On parle par exemple de Tyranocif qui est capable de déplacer des montagnes, de Léviator de créer des tsunamis ou encore de Garnevoir qui peut, sans faire exprès, créer de mini trous noirs pour se protéger.
Oups.
Et même, le mignon petit Topicœur peut causer des séismes dévastateurs. On est véritable... c'est juste terrifiant. Et rien de mieux que des Pokémon eux-mêmes. Ce sont les meilleures armes contre, les Pokémon. Car rien de mieux qu'un bon gros jet d'eau des familles pour contrer un gros colosse de pierre capable de causer des éboulements massifs sur la ville en contrebas.
En vrai, c'est marrant ce que j'ai dit, parce que c'est typiquement en fait le spin-off de. Enfin, le scénario du spin-off qu'ils ont sorti, genre.
De Colosseum ?
Non, de
Arceus.
La légende Arceus. concrètement t'es dans le passé et du coup c'est un peu, les humains aiment pas trop les Pokémon parce qu'ils sont hostiles avec eux et t'apprends à les aimer et tout ça.
J'ai pas joué à Arceus.
Ah moi je l'ai fait, voilà, mais les graphismes sont horribles mais le gameplay est génial.
Ah voilà. Oui d'accord.
Pour résumer rapidement.
Vous ne trouvez pas ça bizarre que chaque humain ait le droit de posséder des Pokémon et que votre mère vous supplie au début de l'aventure de ne surtout pas vous balader dans les hautes herbes sans Pokémon? C'est tout simplement parce que les Pokémon sont juste beaucoup trop dangereux et pourraient causer votre mort.
Tout à fait. Il faut,
bref,
pas...
pour conclure cette chronique, le monde de Pokémon est une région économiquement fucked up. Sans travail où seule la loi du plus fort existe, car en réalité les hommes habitant ce monde sont en grand danger permanent et ne peuvent et peuvent mourir à chaque instant. Bref, ouais.
Et ben,
ma chronique.
Merci beaucoup Alexandre pour cette analyse, parce qu'effectivement on s'était pas vraiment posé cette question jusqu'à présent. Alors moi là j'ai aussi cette petite question, ne serait-ce pas là une utopie quelque part, voilà, une volonté de justement se s'octroyer un petit peu. En fait c'est vrai que tous ces petits problèmes liés à comparer la société qu'on voit actuellement, effectivement ça se rapproche on a voulu se concentrer plutôt sur le jeu et non sur la société autour, ce qui est effectivement très intéressant de faire une analyse derrière en disant mais qu'est-ce qui se passerait effectivement.
C'est ça, c'est concrètement,
donc
c'est...
oui c'est une très très bonne.
Est-ce que ta prochaine chronique c'est pas qu'est-ce qui passerait si Philippe Poutou aurait gagné les élections? C'est pas grave, ça aurait pu être une bonne chronique.
Ça aurait pu être une nouvelle chronique, mais peut-être pas. Je sais pas encore.
Alors,
ce que vous faites la semaine
sur
prochaine.
La France.
Peut-être.
Un questionnement.
Bon. Un questionnement pour
magnifique. Eh bien écoutez, mesdames et messieurs, l'heure est venue maintenant, malheureusement, de nous quitter. Ce soir,
déjà.
Dans la Happy Hour, ne vous inquiétez pas, nous reviendrons bientôt. Tous ensemble dans ce magnifique studio qui est Radio Alpa. Alors, ouais. très rapidement, Andreas, bisous.
Est-ce que je peux te teaser une petite émission juste?
Allez, vas-y, c'est pour toi, c'est cadeau.
Normalement, pas la semaine prochaine, mais la semaine d'après, à la rentrée, on a la Traviata avec des amis qui chantent en live et qui jouent en live. Hein, si jamais vous les écoutez.
Alors n'hésitez pas.
Voilà. Je leur fais des bisous et je fais aussi des bisous à mon prof de violon qui nous écoute. Hein. J'espère que t'as bien apprécié cette émission.
Un grand plaisir. Alexandre.
Et ben moi, je vais... D'accord, j'ai bégayé déjà, ça commence par là. Je fais des gros bisous à mes élèves qui m'ont écouté, parce que à côté de l'ENSIM et d'un animateur radio, je suis aussi professeur de maths.
D'accord,
c'est
excellent.
Du coup, mes élèves qui m'écoutent ce soir, et du coup, j'en fais des gros bisous, et à demain pour certains. Du coup.
Benji, notre technicien, c'est pour qui que tu adresses tes bisous?
Qui les bisous? Bah, pour ma famille, les parents, évidemment, la frangine. Le petit frère et ma copine que je monte voir en Suède la semaine prochaine.
Oh, magnifique!
Tu vas en Suède la semaine prochaine.
J'espère que
tu
nous raconteras ce magnifique périple. Moi, je fais des bisous à ma famille et mes copains. Moi, je fais des bisous à ma famille et mes copains qui m'attendent au bar. Hein, vraiment, m'attendent au bar.
J'ai un bisou en plus. Hein.
Yeah.
On fait un bisou à Luce quand même parce qu'elle a eu son permis.
Elle a eu son permis.
Pardon, bravo, mais excusez-moi. On fait des bisous à la grand-mère d'André.
Ah, mais c'est ce que j'allais dire. On a oublié.
Heureusement.
On est passé à ça.
On est passé à ça d'oublier une fois le bisou à la grand-mère.
Et voilà, nous avons fait des remerciements. Merci de nous avoir écoutés ce soir. Et puis, on se retrouve très vite. Et bien, on fait. Allez, salut tout le monde.
Bonne soirée.
Bonne soirée.
Bisous.
Bonne bisous.
Déjà, je voudrais rappeler que l'alcool est consommé avec modération. À une règle que tout le monde respecte, évidemment.
Bonsoir.
La musique est incroyable, un peu plus sur un tabarnak, là.
Ils sont chauds, ils sont...